Qu'y a-t-il ?
Je viens de détecter une déficience de l'antenne radar.
Veuillez vous présenter à l'identification vocale.
Je veux que vous me parliez. Je voudrais vous entendre.
Est-ce excessif ?
S'il vous plaît, répondez-moi.
Cinérama.
Bonjour.
C'est bien. Encore une fois, bien articulé.
Cinérama.
Parlez normalement et détachez bien chaque réponse.
De quoi s'agit-il ?
Question intéressante.
Actualité cinéma.
Ah, un petit mot encore.
Et tout le reste.
En fait, nous avons tous les renseignements utiles. Oui, merci.
Juste un petit détail afin de mettre mon dossier à jour.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Eh bien, oui, je crois que oui.
Oui. Non.
Bonjour, antépénultième émission de la saison qui a des airs de plage et d'été. On aura vu trois films qui sortent ce 21 juin, dont Alerte à Malibu, l'occasion de jouer un blind test sonore mer et baignade. 5 extraits de films à entendre. Et puis, du coup, Manu, tu as vu Baywatch.
J'ai vu Baywatch, donc j'ai fait le grand écart entre le presque navet de la semaine et puis un chef-d'œuvre, Creepy, le nouveau film de Kiyoshi Kurosawa.
Et toi Marine, tu as vu un film qui sort le 21 juin aussi?
Alors moi en tout cas, j'ai vu deux films qui ne sont pas des chefs-d'œuvre, à savoir No Patriot, un film historique sur la Seconde Guerre mondiale, et Le Manoir, une comédie d'horreur avec la crème des youtubeurs français.
Et puis moi j'ai vu Wulu de Daouda Koulibaly, film franco-africain, très intéressant. Et puis Chaos de Fabrice Gobert, celui qui est réalisateur de la série Les Revenants, qui était très attendu au cinéma. Et ça aussi ça sort le 21 juin, c'est Cinérama.
Et maintenant
Cinérama.
Tout est parfaitement en ordre.
Pour la petite histoire, le manoir appartenait au baron Gluckenstein-Müller. C'était sa résidence de chasse.
Et on commence donc avec Le Manoir. Alors, une bande d'étudiants, qui ont en fait 32 ans, et ça se voit quand même un peu, décide de passer la nuit du 31 décembre dans un manoir loué pour l'occasion et ne possédant pas de connexion Wi-Fi. Déjà, on y croit moyen. Mais très vite, certains d'entre eux disparaissent mystérieusement. Ils doivent faire face à une évidence. Ils ne sont pas seuls. Alors, le film a été réalisé par Tony Dattis. Je pense que ce nom est un pseudonyme et je pourrais comprendre qu'il ait envie de cacher sa véritable identité. Je ne sais pas du tout qui c'est. Et il a été écrit, entre autres également, par Marc Jarousseau, l'un des youtubeurs de la bande. Au passage, le scénario est quand même censé avoir été écrit à 4 scénaristes. Je pense qu'il y a eu quelques emplois fictifs dans le lot. Et Le Manoir donc, a surtout pour but de mettre en scène 15 des youtubeurs français les plus populaires autour d'un scénario prétexte. Alors en vrac, on retrouve ainsi Natou, Kemar, Mister V, Jérôme Niel et Ludovic, mais qui doivent ici faire face à un enjeu de taille, passer de la pastille internet au long métrage. Alors attention, l'humour est bête et assumé. Les producteurs essaient quand même de faire passer la bande pour les héritiers des nuls, mais c'est un peu insultant. Mais soyons sincères, et bien certaines situations fonctionnent bien, voire même sont un peu hilarantes. Dommage juste d'avoir cédé à la facilité de l'humour oppressif, à savoir le roux de la bande est puceau, le black a un énorme membre entre les jambes, la fille qui parle comme un mec est une lesbienne refoulée, etc. On en a marre de ce genre d'humour stéréotypé, surtout quand c'est à destination d'un public très jeune, que l'on formate du coup à rire des mêmes choses et surtout des mêmes personnes. Parenthèse fermée, l'un des autres défauts du film, c'est sa distribution. Les interprètes ne sont pas des comédiens et cela se sent. Certains, comme Vincent Tirel, tirent leur épingle du jeu, mais pour la plupart, on sent qu'il leur est difficile de jouer avec des partenaires et non devant, face caméra dans leur chambre. Surtout que le réalisateur s'impose des difficultés sans intérêt, comme le fait d'inclure des plans séquences qui mettent en grande difficulté les acteurs. Le meilleur de tous, d'ailleurs, reste sans doute José Garcia, qui fait une apparition dans le rôle d'un sanglier qui parle catalan. Je n'en dis pas plus. Et puis, le réalisateur ne sait pas non plus simplifier la tâche en voulant coupler deux genres cinématographiques qui requièrent un maximum de talent de mise en scène et de sens du rythme, à savoir la comédie et le film d'horreur. Il échoue aussi bien pour l'un que pour l'autre. Mais bon, ça, les pré-ados qui iront voir le film ne s'en rendront pas compte. Donc finalement, ce n'est pas très, très grave.
Film formaté donc pour un public vraiment particulier.
Oui, vraiment très, très pré-ado même. Et ça sort aujourd'hui donc.
Film qui sort aujourd'hui également, enfin le 21 juin, Chaos de Fabrice Gobert.
Avez-vous remarqué qu'on tourne de moins en moins de films d'action actuellement ?
Oui.
Cinérama.
Le monde devient philosophique.
Quand les gens sont poussés à bout.
C'est vraiment une pourriture !
Faut pas s'étonner qu'ils pètent les plombs.
Alors dans quoi sommes-nous ? Un film de vengeance où le personnage va zigouiller tous les affreux du film ? Dans un film social où la révolte va gronder ? Ou encore dans un drame psychologique qui va voir le personnage peu à peu perdre pied ? C'est plutôt cette voie-là qui est empruntée par Fabrice Gobert pour son second long-métrage « Chaos » avec un Laurent Lafitte de tous les plans. Alors dans ce film, Lafitte devient Lecomte. Moi je me dis qu'il aurait pu garder son nom et prénom, parce que Lafitte, enfin bon... Donc Antoine Lecomte est directeur exécutif d'une chaîne de télévision. C'est un type arrogant, sûr de lui, qui n'a aucun mal à écraser tout ce qui lui résiste et à prendre ce qu'il veut. Alors dans le même temps, il dégage un animateur de sa chaîne, méprise copieusement sa compagne, ignore sa maîtresse comme sa fille et séduit une jeune femme. Alors passer près de 2 heures avec lui peut être vite insupportable, mais...
T'es un survivant, Antoine. Ta crise cardiaque doit te permettre de réaliser ce qui est vraiment important.
J'ai pas fait de crise cardiaque. On m'a tiré dessus.
Personne ne vous a tiré dessus.
Et ça, c'est quoi ?
Pourquoi connaître les gens et puis, en fait, on se trompe tout le temps.
Et oui, patatras, un événement que la bande-annonce donc dévoile, hein, soit une crise cardiaque, soit un coup de feu, le saura-t-on à la fin, va bouleverser Antoine Lecomte dans un monde parallèle où il aura perdu eh bien, tous ses repères. C'en est fini de sa vie d'avant, il n'est plus dirigeant mais un élément interchangeable de la chaîne qu'il dirigeait, il n'a plus la même compagne. Ironie, il est maintenant soutenu par les syndicalistes de la chaîne qu'il exécrait auparavant. La partie que nous joue Fabrice Gobert n'est pas sans intérêt. En plaçant ce personnage antipathique dans un monde qui l'horrifie, il pourrait convoquer chez le spectateur la part de sadisme qui est enfoui en chacun de nous, le genre bien fait pour lui. Mais Gobert, qui a réalisé la série Les Revenants, sans oublier la critique sociale, les plus forts qui écrasent les plus faibles, eh bien, s'amuse davantage à nous plonger dans une ambiance fantastique et étrange, où par exemple, ce qui ressemble à Paris, eh bien, est dépeuplé. Ce qui était un combat de boxe diffusé en Mondovision au début du film est devenu un combat clandestin à la Fight Club. La citation de Fincher est d'ailleurs à propos, car comme un Fight Club, ou comme dans Fight Club, pardon, ou un The Game, le film de Fabrice Gobert repose sur un twist final venant éclairer ce qu'on a vu auparavant. Ainsi, revoir Chaos en connaissant la fin permettrait de voir un autre film et de saisir toutes les perches que la réalisation a tendues. Alors si le film est bien tenu, le principal problème de Chaos est qu'il s'agit d'un film qui repose donc sur l'ambiance, j'en ai déjà parlé, changement de place des personnages, situation vue d'un autre point de vue, ville dépeuplée, et ça repose également sur l'interprétation. Alors par des jeux de miroir, hein, Lafitte jamais filmé de face, hein, le réalisateur parvient à placer suffisamment d'étrangeté, pourtant la mécanique s'épuise une fois qu'on en a compris les ressorts. Chaos n'est pas un mauvais film, et ceux qui apprécient les univers fantastiques teintés d'étrangeté y trouveront leur compte, mais pour reprendre la comparaison avec Fight Club, si on était autant stimulé par la critique politique que par le montage vivace à l'œuvre chez Fincher, ici la critique sociale du salaud patron qui en a perdu toute son empathie, eh bien cette critique sociale est moins flamboyante et ne suffit pas à nous faire tenir en haleine. En revanche, bel exercice hein, pour les acteurs qui sont confrontés à jouer des personnages différents selon le monde dans lequel ils sont. Oui.
Non, c'est que Fabrice Gobert avait aussi réalisé un film excellent avant qui s'appelait...
Son premier long métrage.
Simon Werther a disparu sur la musique, avec la musique de Sonic Youth, il me semble. Mm. Et il y avait un petit côté Twin Peaks, le roi Palmer, qui était intéressant.
Ben là, c'est plutôt chez Fincher hein, qui prend les références. K.O. est donc sur les écrans le 21 juin.
À quoi sommes-nous confrontés ?
Cinérama.
C'est quoi, c'est une blague ou quoi ?
Salut, petite sirène, tu viens passer les sélections ?
Pas besoin, je suis Matt Brody. J'ai 2 médailles d'or.
Hey, Matt Brody.
Matt Brody, bien sûr. Sauf que nous
on s'en bat les couilles.
C'est Baywatch, fillette.
Ah, les amoureux de Pamela Anderson et les fans de David Hasselhoff gardent un souvenir ému d'Alerte à Malibu, série aussi culte que ringarde, même à l'époque, hein, qui obtint néanmoins un grand succès au début des années 90. Si Sex and Son, comme dirait Gainsbourg, pour des intrigues cousues de fil blanc, prétexte à exhiber des poitrines imposantes de starlet et la musculature tout engonflée d'un casting masculin assez navrant, le tout filmé dans d'interminables ralentis pour masquer le vide abyssal de l'ensemble. Alors l'adaptation cinématographique qui arrive quand même avec quelques trains de retard participe à la crétinisation d'un cinéma commercial devenu cynique, capitalisant sur l'oracle d'une série tout en jouant la carte de la parodie pour éviter le ridicule. Alors cette manière de vouloir surfer sur les deux tableaux, hein, d'un côté faire plaisir aux vieux fans et de l'autre caresser dans le sens du poil le jeune public friand de comédie débile, en dit long sur l'opportunisme d'une telle entreprise. Alors conscient des limites d'un tel projet, voire même de l'absence de potentiel cinématographique, Seth Gordon, le réalisateur, hein, oriente en toute logique son film du côté de la comédie régressive, avec comme obsession un humour se situant largement en dessous de la ceinture, et encore une fois, limite crypto-gay. C'est assez marrant, c'est le cas d'énormément de comédies comme ça, de faire des... C'est assez curieux d'ailleurs, mais bon. Une formule qui sent aujourd'hui un peu le réchauffer, hein, voire même une réelle mesquinerie en refusant de jouer la carte du premier degré. Auparavant, l'adaptation sur grand écran, il y a eu Starsky & Hutch, 21 Jump Street ou encore Chips, avait subi les frais de cette ridiculisation normative de produits autrefois regardés pour ce qu'ils étaient, des divertissements très premier degré visionnés avec un regard naïf. Alors, pour éviter toute idée subversive, on reprend tous les ingrédients qui ont fait le succès d'Alerte à Malibu. On y saupoudre d'une intrigue complètement débile sur fond de trafic de drogue et d'escroquerie immobilière. Et on enrobe le tout de gags navrants et de répliques salaces, laissant penser que personne n'est dupe. Alors, à ce stade, ce n'est plus du cinéma, mais de la pure opération marketing qui surfe sur un humour pseudo-trash bien daté. Bref, Baywatch est une, on va dire, une parodie médiocre, hein, filmée comme un clip vidéo ou une pub pour maillot de bain. Alors sauvé in extremis quand même par la prestation plutôt amusante de Zac Efron et surtout Dwayne Johnson, qui est un acteur que je trouve de plus en plus drôle en fait.
En même temps, Zac est forcément parfait, quoi qu'il fasse. Pas tout le temps.
Pas tout le temps, non.
Si, tout le temps.
Tout le temps. Physiquement ou intellectuellement.
Bon, en tout cas, ça donne pas ni envie d'acheter un maillot de bain, ni envie d'être maître nageur sauveteur.
Non, pas vraiment. Ouais.
En tout cas, ça nous donne l'occasion, nous, de jouer un blind test sonore pour découvrir, alors, bien, au travers de 5 extraits, des films qui se déroulent soit sur la plage, soit la baignade est plutôt déconseillée, soit eh bien, elle est plutôt agréable. Et ça va être peut-être du plus facile au plus difficile.
Cause du décès, attaqué par un requin.
Ah, c'était trop facile, évidemment.
C'était le temps de la mer.
Oui. Film de 75 de Steven Spielberg, encore un facile dans un autre style.
Tout le camp lui est passé dessus.
Oh.
Tu t'es jamais faite, toi?
Ah non, moi non.
Tiens donc, pourquoi ça?
Je marche un peu sur des œufs avec les femmes parce que j'ai eu une année très difficile sentimentalement. Alors.
Moi aussi, j'ai eu les polyvalents dans mon salon.
Ouais, mais enfin, moi, j'ai eu une rupture. J'ai vécu avec une femme, et puis au bout de 48 heures, elle a décidé qu'on se séparerait d'un commun accord. Alors, j'ai pas bien supporté. J'ai même essayé de me suicider.
Comment ça?
Ouais, j'avais très original dans ces moments-là, tu sais. J'ai mis l'Adagio d'Albinoni, j'ai avalé 2 tubes de laxatif, et puis hop. J'ai perdu 16 kilos et ma moquette.
On aurait pu choisir plusieurs extraits, évidemment. Ça a été trouvé. Hein.
Ah bah, les bronzés de Patrice Lecomte.
Film de 78. Encore un, normalement, quelque chose de facile.
27 banques en 3 ans. Mon Dieu. Tout le travail en 90 secondes. Et personne se fait tirer dessus. Alors concrètement, c'est quoi? C'est une équipe solide de professionnels.
Ouais, ils bougent bien.
Tu parles. Ils ont une parfaite maîtrise de l'espace. Et ils se cantonnent seulement au guichet.
Ils s'attaquent pas au coffre?
Non, c'est pas ce qu'ils veulent, ils sont pas avides à ce point-là.
C'est pas con, ça ferait gaspiller du temps.
Et ça, t'as tout compris. C'est Reagan qui fait le chauffeur. Toujours une voiture volée. Il laisse le moteur tourner, là, sur le trottoir. De loin, elle paraît bien garée. Et après la fuite, ils s'en débarrassent et disparaissent. Comme la virginité un soir de surboom. Bouffé par la nature. Psst.
Ah, petite blague aussi, hein. Mais c'est pas les mêmes. Ça a été trouvé par Marine.
C'était Point Break.
Oui. Avec Patrick Swayze et Keanu Reeves, oui. Grand succès des années 90.
Grand jeu d'acteur aussi. Hein.
Et qui a fait l'objet d'un remake d'ailleurs.
Très mauvais.
Très mauvais que tu avais chroniqué, Manu.
Quatrième extrait.
Premièrement, Charlie ne nous a jamais présenté de fille.
Si, Camille.
Mais non, il était en cinquième, ça compte pas. Deuxièmement, et... enfin je sais pas, moi ça crève les yeux. Tu vois bien que Martin est son petit ami.
Bon, enfin, ça fait un an qu'ils se sont pas vus.
Justement, à cet âge-là, on se fâche pas comme ça, sauf pour des raisons sentimentales.
Mais enfin, Charlie fait du foot.
Troisièmement, et ça c'est l'argument qui tue, Charlie et Martin ne dorment pas dans la même chambre. On n'a jamais vu des ados faire chambre à part, sauf s'ils veulent cacher quelque chose.
Tu dis n'importe quoi, tu affabules.
Alors.
Tu affabules.
Oui, on est dans un film français, Marine. Donc, ça n'a pas été trouvé. Alors, Valeria Bruni Tedeschi, qui...
Un beau dimanche, non, c'est pas ça.
Non, qui voit que leur fils est visiblement homosexuel. Il va découvrir l'homosexualité avec Jean-Marc Barre. Crustacé coquillage de Olivier Ducastel et Jacques Martineau. Mm-hmm. Ah, vous êtes passé à côté. Bon, il faut voir ça. Dernier extrait.
Dents de rasoir.
C'est quoi, dents de rasoir?
Vous avez vidé le bassin?
Oui, on a retrouvé...
Vous les avez eu, ces filets?
Mais laissez filer qui?
Oh, ça va.
De qui parlez-vous?
Allons, monsieur, allons. Vous êtes totalement inconscient. Détachez-moi! Détachez-moi!
Je vais voir si ce n'est pas vous, l'inconscient, monsieur.
Détachez-moi! Si vous saviez, ils se reproduisent comme des mouches. Il n'y aura plus moyen d'y mettre fin.
Bon Dieu, reprenez vos esprits, que sont devenus les deux jeunes?
Ça, c'est un secret, je peux rien dire. Miséricorde, ils vont tous nous tuer.
D'accord, puisque c'est comme ça, ce sont les flics qui vous arracheront des aveux.
Miséricorde, mais c'était Piranha.
Oui, bravo au film de Jodorowsky, donc de 78, qui a fait l'objet d'un remake, encore une fois. Mais plutôt réussi.
Ah, plutôt réussi, oui. Deux remakes même. Deux. Parce qu'il y a eu une suite à Piranha 3D, deux.
Ah oui.
Piranha 3D2.
En tout cas, ainsi s'achève ce blind test spécial plage et baignade qui pourra revenir parce que des films, il y en a quand même pas mal. Et sans transition, ce sont les Patriotes.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
C'est un passe-temps surprenant.
Durant l'occupation allemande, la résistance s'organise dans les Vosges. Adiba est un tirailleur sénégalais capturé au front. Il prend la fuite et rejoint l'un des principaux mouvements résistants français, dont il deviendra même le chef. Nos patriotes racontent le combat de ce résistant, pas comme les autres, qui a réellement existé.
Soyez sans crainte, on va s'occuper de vous.
T'es complètement irresponsable, Christine.
On peut pas rester les bras croisés sans rien faire à penser que les Allemands sont chez eux.
Bonjour, Félix. Nous cherchons à noyauter les administrations. Recueillir le maximum d'informations de l'intérieur. Notre problème est de construire un réseau secret.
Je travaille pour la Croix-Rouge.
Et lui?
C'est mon traducteur.
Traducteur?
Votre coup de feu, il va faire 50 morts. Pour un soldat allemand tué, 50 Français exécutés. Ça, désormais, c'est la règle.
Ah, je voudrais. Je voudrais n'être pas français pour pouvoir dire que je te choisis France et que dans ton martyre, je te proclame, toi que ronge le vautour. Ma patrie et ma gloire. Et mon unique amour.
Décoré à titre posthume et même carrément 60 ans après sa mort par le gouvernement français qui a longtemps sciemment ignoré son existence et son implication dans la résistance, Adiba trouve une seconde réhabilitation grâce à ce film. Du moins, c'était l'intention sans équivoque du réalisateur Gabriel Le Gomin, plus connu jusqu'à présent pour son travail documentaire. Le sujet, à savoir le parcours d'un héros de la résistance méconnue, était intéressant. Les intentions étaient tout à fait honorables. La scène d'ouverture est même très efficace. Dommage que, rapidement, nos patriotes pêchent par une interprétation beaucoup trop poussive. Les dialogues sont surécrits, déclamés par des comédiens hors sujet. Résultat, le film paraît très démonstratif dans son message humaniste, versant parfois dans l'angélisme les clichés les plus éculés. Une partie des acteurs tels que Pierre Delalonchamp, Grégory Gadebois ou Marc Zinga, le premier rôle, sont très crédibles et très justes, mais le casting souffre d'inégalités. L'autre partie des acteurs est clairement de seconde zone, tels qu'Alexandra Lamy ou Louane Emra, et ils ont grand mal à dire leur texte correctement, au point que ça en devient parfois vraiment gênant. Et au milieu de tous ces seconds rôles laborieusement interprétés, surnage heureusement le personnage central de Adiba, qui aurait mérité meilleur traitement. Le personnage est intéressant par son ambivalence. Héros imparfait, victime de ses propres contradictions, il n'est pas érigé en symbole, mais en symbole de la résistance, mais en représente au contraire les dysfonctionnements internes, tels que le dilemme entre l'intérêt commun et les intérêts personnels. Et sur ce point-là, le film est intéressant. Bref, tous ces défauts donnent à l'ensemble une facture un peu télé. Je pense clairement que le film n'a pas sa place sur les écrans de cinéma, que ce soit par son ton, son casting ou même ses effets spéciaux, parce qu'alors il n'y en a qu'à un seul moment, mais on dirait que c'est un film fait par les premières années de cinéma, quoi. Même le peu d'effets spéciaux qu'il y a font hyper cheap. Et c'est vrai que le film, je pense, n'est pas fait pour les grands écrans. Ça marcherait très bien si ça passait sur France 3 un dimanche soir.
Et bam pour France 3. sinon, donc Louane...
Une catastrophe. Mais bon, En même temps, je pense qu'enfin, elle montre les limites de son jeu parce que c'était complètement surestimé, lui donner un César du meilleur espoir. C'est catastrophique, là, elle n'arrive pas à dire une phrase. Enfin bon,
et voilà. Boum, allez. Ça y est, on a compté les points, 2-0. On passe maintenant, eh bien, peut-être au seul film. Non, ce ne sera pas le seul film de cette émission apprécié, mais en tout cas, ce qui nous vient du Japon, là, est très apprécié. C'est pour toi, Manu.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
On va regarder ça.
Alors, avant son escapade en France, pour le décevant Le Secret de la Chambre Noire, Kiyoshi Kurosawa a réalisé ce Creepy, alors présenté au Festival de Berlin en 2016. Alors, il aura fallu attendre plus d'un an pour découvrir ce film de commande produit par l'une des plus grosses compagnies japonaises. Alors, son nouveau thriller, après des œuvres plus intimistes comme Tokyo Sonata ou Vers l'autre rive, renoue avec la veine sombre de Kure, qui lui avait valu de le faire connaître en France, du moins. Alors, il reprend à son compte le thème du serial killer en poursuivant intelligemment ce qu'il avait déjà traité dans Kure, mais aussi rétribution, à savoir un tueur qui contamine ses victimes sans commettre directement les meurtres. Alors à travers ce postulat, Kurosawa émet à nouveau l'idée malsaine et insidieuse que le mal se propage comme une entité abstraite, voire même comme un virus, dans une démarche qui n'est pas sans rappeler certains films de David Cronenberg. Alors en adaptant le best-seller de Yutaka Maekawa, le cinéaste ne s'est pas trompé, il a trouvé un sujet en or permettant de déployer son immense talent, à commencer par son art de la suggestion et son sens inné de la topographie, participant pleinement à l'ambiance anxiogène qu'il réussit à distiller du début à la fin. Alors le prologue, hein, tout en trompe-l'œil, s'apparente à une sorte de pastiche détournée du Silence des agneaux. Le face-à-face entre un flic Takakura et un serial killer dérape et finit dans un bain de sang suite à une négligence de surveillance. Alors au cours de ce bug, le flic se retrouve blessé et une innocente la gorge tranchée. Alors tandis que le tueur succombe sous les balles, rideau. Bon, le sens de l'ellipse et la fluidité de l'action détonnent pour du Kurosawa peu habitué à commencer par un rythme aussi alerte. Alors cette entrée en matière permet de poser les bases d'une intrigue redoutable. Un an plus tard, le flic donc est devenu professeur en criminologie. Il s'installe avec son épouse dans un quartier paisible afin de mener une vie tranquille. L'apparente sérénité des lieux est vite chamboulée lorsqu'ils font la connaissance de leur voisin, Nishino, un personnage atypique et inquiétant qui va perturber la femme de l'ex-policier qui va petit à petit succomber à l'emprise de cette silhouette aux allures de croque-mitaine. Alors en parallèle, Takakura, le flic, est sollicité par son ex-collègue et ami Nogami pour une enquête au sujet des disparitions. Alors comme rien n'est le fruit du hasard, hein, les deux récits vont évidemment converger pour nous amener tranquillement au cœur d'un cauchemar diabolique. Alors attention, je ne spoil rien, hein, car la grande force de Creepy ne réside pas dans un quelconque twist ou des rebondissements cache-misère. Au contraire, le spectateur devance les personnages qui ne savent pas dans quel piège tortueux ils vont alors s'engouffrer. Kurosawa réserve tout de même quelques surprises, car on est quand même loin d'imaginer ce qui se passe derrière le portail du voisin Nishino qui vit avec sa fille introvertie et une femme invisible. Alors, en un plan foudroyant, Kurosawa parvient à nous terrifier. Alors, en plein jour, sous un ciel lumineux, il filme l'entrée banale de la demeure de Nishino comme une menace absolue, sorte de passage vers l'enfer. Alors, d'un coup, le vent se met à souffler. Le plan se transforme en tableau vivant, menaçant, vous filant vraiment la chair de poule. Je trouve que le génie de Kurosawa est là, dans ces moments où il ne se passe presque rien en apparence. Mais une porte, une façade, un jardin, un arbre deviennent alors des formes inédites, revêtant un caractère vraiment terrifiant, rappelant le David Lynch de Lost Highway. Enfin, moi, j'y ai vraiment pensé. Alors, on retrouve ce coup de maître à plusieurs reprises. Hein. Interrogée par le prof en criminologie à l'université, une jeune fille raconte la disparition de sa famille. Alors, d'un coup, la lumière s'assombrit, le film bascule du côté du surnaturel. Alors, autre moment impressionnant, Takakura, le flic, donc, surplombe son quartier résidentiel. D'en haut, il observe sa maison et est frappé par la ressemblance avec la scène de crime sur laquelle il enquête. Alors, en un détail, un frisson vous parcourt. Alors, je dois l'admettre, hein, ça faisait longtemps qu'un film ne m'avait pas fait aussi peur. Alors la manière de filmer aussi, la vision pavillonnaire paisible en apparence, mais dont on imagine le pire derrière la surface, est la première source d'angoisse. La seconde, liée surtout à sa deuxième partie en fin de compte, plus éparpillée et grand guignol, provient de la personnalité atypique du voisin Nishino, serial killer sinistre et fascinant en même temps. L'interprétation élastique de Toyuki Kagawa, qui est un habitué de chez Kurosawa.
Il a un chouette prénom, lui.
Oui. Et oui, il s'appelle Truyuki.
Ah oui.
Il est pour beaucoup. Alors, il déforme son visage avec une facilité déconcertante et déplace son corps pesant comme figé au sol de manière insolite. Alors, il y a un mélange de bouffonnerie, de tristesse et de perversité qui en fait l'un des personnages les plus marquants vus depuis longtemps sur un écran. Alors, il incarne, on va dire, une figure du mal qu'on n'est pas prêt d'oublier. Alors, plus facile d'accès là, que ces derniers films, tout en gardant ses secrets et ses zones d'ombre, Creepy est un authentique film d'épouvante domestique qui fait froid dans le dos, doublé aussi, et là on ne se refait pas, d'un portrait déchirant d'un couple en crise. Alors jusqu'à la dernière séquence, la dernière scène, qui est absolument déchirante. Pour moi, c'est peut-être l'un des 2-3 chefs-d'œuvre de l'année là, pour l'instant.
Ah ben voilà.
Je dis ça à chaque fois, Manu.
Ben, je dis ça, j'en ai 3 là pour l'instant.
En tout cas, Creepy de Kiyoshi Kurosawa est déjà sorti et déjà sur les écrans depuis le 14 juin. Nous allons passer maintenant au film franco-africain du mois, on va dire.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Cinérama.
On va regarder ça.
On parle de Wulu comme d'un Scarface malien parce qu'on y suit la trajectoire de Ladji qui à 20 ans vit du trafic de drogue en assurant la belle vie à sa sœur qui l'a sortie du trottoir. Alors si Wulu du réalisateur Douda Koulibaly emprunte bien quelques codes au cinéma de truand, le personnage de Ladji est plutôt un anti-héros taiseux qui ne la ramène pas, rien à voir avec Tony Montana.
Fuck.
Voilà, rien à voir avec ça. Nous sommes plongés en Afrique à Bamako avec donc Lagji à 20 ans. Il est apprenti chauffeur dans la capitale malienne et il n'a qu'une envie, devenir chauffeur. Alors il veut passer d'apprenti à chauffeur comme on lui a promis. Mais comme ses plans sont contrariés, Lagji décide de contacter un dealer qui lui doit une faveur pour intégrer un trafic de cannabis et de cocaïne. Se conduisant bien mieux que ce qu'on attend de lui, l'argent va commencer à affluer. Il va enfin pouvoir éviter à sa sœur de se prostituer et même lui permettre de mener une vie oisive inespérée. Mais cette vie n'est pas celle qu'il voulait.
J'ai besoin d'un travail.
C'est ici qu'on met la marchandise. À l'aller, quelques kilos de cannabis et au retour, 2 kilos de cocaïne. Officiellement, tu transportes de la viande.
Si on en fait 3 ou 4 par mois, on se tape plus qu'un ministre.
Alors, c'est toi le petit malin qui en a fait quoi ?
Choisis bien tes associés, hein.
Tes petits copains et toi, il va falloir s'armer. Le risque est trop grand, faut savoir passer son tour.
On peut faire un dernier coup.
Voilà, on sent l'envie d'aller toujours plus loin. Alors dans ce thriller qui va de la ville à la brousse jusqu'au désert et se joue des frontières, le réalisateur prend le pouls d'une Afrique qu'on voit encore trop rarement au cinéma. On est évidemment très loin de la famine et de la misère qu'on peut voir en revanche à la télévision. Mais en suivant l'itinéraire de Lagji, le spectateur voit ici un chef d'entreprise bien blanc diriger un réseau de drogue, là des représentants d'ACMI assurant la sécurité d'un convoi. Un autre moment, on voit l'armée et les politiques corrompus. Pas grand monde à sauver, pense-t-on, et c'est là le point de vue moral du film. Le titre Wulu, qui fait référence à un rite en fait Bambara, est un autre thème du film. La trajectoire de Lagji nous montre comment dans ces villes, l'Afrique se dilue dans un ensemble plus grand. Entre la sœur qui ne voit pas le sacrifice de son jeune frère pour qu'elle puisse mener grand train et Lagji qui voit trop bien lui où son sacrifice le mène, on décèle un propos qui ne regarde plus seulement l'Afrique mais qui est plus universel. Alors Mais Wulu peut aussi être vu comme un thriller nerveux, rythmé, mis en scène avec simplicité où les balles, la drogue, la mort, la corruption, la loyauté et le suspense se côtoient avec adresse. On ne s'ennuie alors pas un seul instant. Le réalisateur fait le choix de survoler alors les personnages secondaires pour mieux se recentrer sur la trajectoire de son héros jusqu'à nous gratifier d'un montage à la Eisenstein tout en métonymie pour mieux appuyer sa détresse. Ça, c'est très étonnant. Alors même si cela tente à déséquilibrer le récit, le film se tient parfaitement devant la pauvreté de la production cinématographique africaine arrivant sur nos écrans. J'incite tous ceux qui peuvent voir Wulu à s'y rendre. J'ai pas regardé le nombre de copies présentes sur le territoire français, mais ça doit pas non plus être très conséquent.
Alors méfiez-vous des apparences et contrôlez toujours qui est qui.
Qui est qui ?
Vous pouvez pas contrôler qui est qui ?
Quoi, qui est qui ?
Bah quoi, qui est qui, quoi ?
Eh bien, qu'y a-t-il ?
Auriez-vous oublié que nous partons ?
La séance est levée.
Je crois que nous n'avons plus rien à nous dire.
Inutile d'avoir des regrets, c'est trop tard.
La semaine prochaine, ce sera une interview, celle de l'équipe du film.
Chercher la femme avec Félix Moati et Camélia Jordana, dont je vous parlerai.
Et moi, je vous parlerai du dernier film d'Agnès Varda, qu'elle a fait avec JR.
Et je vous parlerai d'un petit film d'horreur qui sort la semaine prochaine, It Comes at Night.
À la semaine prochaine.